Mondial Sport sur RFI. Éric Mamrut.
Bonsoir tout le monde. Au sommaire ce soir, du vélo, du tennis et du basket, avec notamment les débuts de LeBron James avec les Lakers. Mais sans plus attendre, place au football, la Ligue 1 française pour commencer. 10e journée, 3 matchs aujourd'hui. Montpellier bat Bordeaux 2-0, un partout entre Saint-Etienne et Rennes. Enfin ce soir, Marseille est allé battre Nice 1-0. Conséquence, Montpellier-Marseille sont 3e ex-aequo classement à 3 longueurs de Lille, le Dauphin. Il y a 11 du Paris Saint-Germain, mais le choc du jour en Europe se déroulait en Italie. Le derby milanais entre l'Inter et le Milan AC, ça vient de se terminer sous les yeux de notre correspondant sur place, Matteo Cioffi. Buonasera.
Bonsoir.
Alors, beaucoup de suspense dans ce match, mais à l'arrivée, ce sont les Interistes qui l'ont emporté in extremis 1-0 sur le fil, Matteo.
Oui, match très tactique qui a rendu le spectacle, mais comme vous l'avez dit, pas le suspense, car à une minute et demie du triple sifflet final, Mauro Icardi a profité d'une erreur du gardien Gigi Donnarumma et avec un coup de tête offert à son club, à ses tifosi, une victoire énormément précieuse et méritée. 1-0, l'Inter a géré le match, a osé plus, et certainement montré d'avoir en ce moment un collectif qui a plus de valeur par rapport à celui des Rossoneri. Inter, 5e victoire d'affilée et 3e place au classement à 6 longueurs de la Juve.
Oui, c'est une très bonne affaire pour l'Inter. En revanche, pour le Milan AC, c'est beaucoup moins bien.
Oui, il faut finalement encore travailler, M. Gattuso, car ce soir, son équipe a montré beaucoup de faiblesses et de défauts, surtout dans la construction du jeu. Lorsqu'on dispose d'un joueur de la taille de Gonzalo Higuaín, le milieu de terrain doit trouver beaucoup plus de solutions pour permettre à l'Argentin d'aller vers le but adversaire. Dans le jeu de Gattuso, Higuaín est fondamental, mais ce soir, on l'a vu vraiment très isolé.
Alors donc, l'Inter de Milan est 3e ce soir à 6 longueurs de la Juventus de Turin. La Juventus qui hier avait cédé du terrain, concédant le nul à domicile face au Genoa, 1-0. Est-ce que c'est un petit faux pas inquiétant pour les Bianconeri?
Bah écoutez Eric, même un match nul du côté de la Juve peut se considérer presque une défaite si on pense que l'équipe a gagné tous les 8 premiers matchs. À partout face au Genoa, dû surtout à un manque de concentration en deuxième partie de jeu, comme a reconnu à la fin du match Max Allegri, qui a reproché à son équipe d'avoir commis une erreur très grave, c'est-à-dire croire qu'une rencontre est déjà remportée si on ouvre pour premier le score, même si on s'appelle le Juventus, mais c'est pas le cas. Selon la plupart des médias italiens, quelques joueurs torinois semblait avoir déjà la tête à Manchester. Le seul qui certainement était très concentré était encore une fois Cristiano Ronaldo, auteur du but pour son équipe et sans aucun doute le meilleur de son équipe.
Manchester United qui sera l'adversaire de la Juve en Ligue des Champions cette semaine. En revanche, tout va bien pour Naples. Victoire 3-0 à l'Udinese hier encore. Une équipe de plus en plus à l'image de son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti.
Oui, la victoire de Eric relance les chances de Scudetto, de cette équipe qui, match après match, commence à se rapprocher toujours plus du système de jeu voulu par son charismatique entraîneur Carlo Ancelotti, c'est-à-dire une équipe solide, certainement moins spectaculaire par rapport à l'année passée où il y avait Maurizio Sarri, mais très très efficace, un degré de maturité que Ancelotti est en train de transférer à ses joueurs qui doivent saisir leurs qualités, et comme le technicien souvent l'a dit cette année, penser que remporter le titre est tout sauf un miracle. En autre mot, il faut y croire.
Naples, deuxième, qui revient à 4 longueurs de la Juve. Et grazie mille, Matteo Cioffi, direction l'Espagne. À présent avec vous, Eric Chorin, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
L'Espagne, où un club de football d'un nouveau genre a vu le jour il y a 3 ans, son nom Alma de África. Sa particularité, regrouper ceux que l'on appelle des migrants. L'Espagne est devenue pour eux, en effet, l'une des principales portes d'entrée vers l'Europe après avoir traverser la Méditerranée, souvent au péril de leur vie.
Oui, ils sont plus de 40 000 à avoir rallié les côtes espagnoles depuis le 1er janvier 2018. Ce sont les chiffres de l'Organisation Internationale pour les Migrations et c'est en Andalousie qu'Alma de África est née, à Jerez de la Frontera, ville située à 35 km des plages où les bateaux accostent. L'équipe évolue dans l'une des ligues de la région et les joueurs qui la composent sont en majeure partie des réfugiés, choisis pour leur aptitude à pratiquer le foot, principalement des Africains, des Sud-Américains également, 15 nationalités en tout. Et un bon niveau de jeu avec un objectif, faciliter leur intégration. Pierre Chaperon est allé à leur rencontre.
Quand on est en Afrique, on pense qu'en Europe c'est le meilleur. On est là pour gagner une meilleure vie.
À 23 ans, Bachir, robuste milieu de terrain sénégalais de l'Union sportive de Alma de África, est arrivé il y a quelques mois en Espagne. Objectif pour cet ancien joueur de football à Dakar, un meilleur avenir. Son parcours pour se rendre ici est celui de milliers d'autres réfugiés comme lui.
J'ai quitté Dakar pour faire le Maroc. De Maroc dans une région qui s'appelle Tanger, de Tanger à Tarifa. Tu risques ta vie pour aller au Tanger, prendre des pirogues, passer dans l'eau pendant une journée ou bien des heures pour atterrir ici en Espagne. C'est une manière de vie ou de mort.
Alma de Africa est composée d'une large majorité d'exilés. Ils viennent principalement d'Afrique, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Burkina Faso, Sénégal. Quelques éléments sont également issus d'Amérique du Sud, Bolivie ou Colombie. Le club est engagé dans une des ligues régionales d'Andalousie, la troisième division de la Fédération de Cadix. Pour les matchs officiels, tous portent un maillot particulier, couleur vert clair. Le logo du club représente le continent africain. Pas de sponsor, non, mais l'inscription de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir toute personne a le droit de chercher l'asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Les entraînements ont lieu sur un terrain prêté gratuitement par la municipalité chaque mardi, mercredi et vendredi soir. Tous se retrouvent pendant 2 heures dans un centre multisport au pied d'une cité HLM au sud de la ville de Jerez de la Frontera. Au programme entraînement et opposition, tout ce qu'il y a de plus classique et un vrai esprit de groupe, comme le note Sam, lui aussi sénégalais, même pas 20 ans, arrivé il y a plus d'un an. Il parle déjà très bien espagnol, mieux que le français. À Alma de Africa, l'ambiance est plus que bonne.
Alma de Africa, c'est une famille. Ici, oui, il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup. Il n'y a aucun problème, l'équipe est très bonne, tout le monde est sympa. Il t'aide. Je suis venu pour jouer au football, le foot. Je voudrais dans les années qui viennent jouer dans d'autres équipes, par exemple Barcelone, le Real Madrid.
Mais le club créé en 2015 ne solutionne pas tout. Difficile de sortir de ce statut d'immigré. Cependant, Alma de Africa est une bonne base d'intégration dans le quotidien espagnol, comme l'explique Bachir.
J'ai déjà fait des formations de cuisine. Aussi, le matin, je vais aller à l'école pour mieux parler la langue. C'est gratuit. L'espagnol, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de mots qui se correspondent et qui ne se signifient pas de la même façon.
Reste que le club doit chaque saison se battre pour obtenir des aides financières dans une des régions les plus pauvres d'Espagne. Il fait même appel aux dons, qu'à cela ne tienne pour Alejandro Benítez, président du club. Pour cet Andalou d'une cinquantaine d'années, l'essentiel n'est pas là. Alma de Africa, c'est aussi et surtout un esprit.
Par exemple, moi, je me sens toujours récompensé parce que je suis un volontaire. Mais ce qui me plaît, c'est de pouvoir rendre un coup de main. Et aujourd'hui, dans ce monde, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour les aider, après, le rêve du président de Alma de Africa, c'est que le club continue de grandir. Et mon rêve, celui que j'ai, c'est de créer, de pouvoir créer le premier centre mondial sportif d'accueil de migrants.
Deportivo de immigrantes.
Au final, Alma de Africa, qui a son hymne, une tradition ici en Espagne, est une réelle bouffée d'oxygène pour ces réfugiés. Une manière de les faire sortir de leur quotidien difficile grâce au football et toutes les valeurs positives que cela comporte. Pierre Chaperon, Jerez de la Frontera, RFI.
C'était l'effervescence la nuit dernière à Los Angeles. La ville des anges et ses fans de basket NBA ont assisté au premier match à domicile de son nouveau joyau, LeBron James, qui a quitté cet été sa franchise des Cavaliers de Cleveland pour revêtir le maillot des Lakers. Malheureusement, King James n'a pu empêcher la franchise aux 16 titres de champion de s'incliner face aux Houston Rockets de James Harden. Le score 124-115. C'était sous les yeux de notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala, que l'on retrouve. Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors l'arrivée de la superstar du basket américain a suscité un énorme engouement chez vous.
L'excitation est d'autant plus énorme, Eric, que les Lakers en sont à 5 saisons d'affilée sans play-off, une éternité pour la franchise la plus connue de NBA, et tout autour du Staples Center, la salle des Lakers. C'est difficile de rater LeBron James en ce moment. Son visage s'affiche en très grand pour une marque d'écouteurs sur la façade d'un immeuble du centre-ville. Son équipementier a aussi installé des portraits du joueur un peu partout à LA Live, le complexe qui fait face au Staples Center, et un spot de pub passe en boucle sur 3 écrans géants de l'autre côté de la rue. Et puis évidemment, on a vu quasiment que des maillots floqués du numéro 23 hier sur l'esplanade de la salle. LeBron, hein, c'est la star qui manquait à LA depuis la retraite de Kobe Bryant. Et du coup, le prix d'une place pour ce premier match à domicile est passé de $192 l'an dernier à $652 cette année. Michael a fait le trajet depuis l'Australie pour l'occasion, écoutez-le.
C'est le deuxième ou troisième plus grand joueur de tous les temps. Tout le monde va se souvenir où il va terminer sa carrière, probablement ici à Los Angeles. Pour moi, c'était l'événement parfait pour lequel payer. Je n'ai pas hésité à payer plus cher que le prix habituel. Ça en vaut vraiment la peine si c'est pour voir LeBron James jouer à Los Angeles pour la première fois.
Et puis Eric, je vous propose aussi d'écouter Rez et Cornelius qui, comme Michael, ont dû sortir le porte-monnaie.
Ça vaut le coup, je viens du Canada, le climat est plus agréable ici. Et en plus, je vais voir LeBron, donc c'est gagnant-gagnant pour moi.
Je sens que cette année va être la bonne. Dans 10 ans, je pourrais dire que j'ai vu le premier match de LeBron James qui a gagné 4 titres de champion avec les Lakers.
Alors Loïc, cela a donné quelle ambiance concrètement au Staples Center pour cette grande première de LeBron James à domicile?
Alors on ne va pas se mentir, le public de Los Angeles n'est pas franchement le plus bruyant de NBA puisqu'il n'a pas aidé les spectateurs à s'emballer malgré leur excitation. C'est que le match a été assez terne. Ce n'est pas encore le retour annoncé du Showtime hein, comme à l'époque de Magic Johnson dans les années 80. Et au final, comme je dis contre Portland, les Lakers ont perdu, vous l'avez dit, pas forcément de beaucoup, hein. Ça s'est joué dans les dernières minutes, mais bon, depuis qu'il est arrivé, le King répète qu'il faudra être patient.
Je ne suis pas déçu, je sais qu'on va avoir des difficultés, en particulier en début de saison. Personne n'a dit que ce serait facile, alors rien ne me déçoit dans ce qu'on a fait ce soir. On a eu quelques ratés, on a manqué quelques tirs dans la dernière ligne droite, ça arrive parfois. Mais l'ambiance était super, les fans étaient très enthousiastes, on leur a donné tout ce qu'on a pu. J'aurais voulu qu'on fasse mieux et qu'on gagne, mais l'ambiance était électrique et on a hâte d'être à lundi.
Et lundi, ce sera contre les Spurs de San Antonio. San Antonio sans l'Argentin Manu Ginobili, parti à la retraite, et sans non plus le Français Tony Parker qui joue désormais au Charlotte Hornets.
Alors même s'il a perdu ses 2 premiers matchs avec les Los Angeles Lakers, LeBron James reste évidemment l'attraction numéro 1 de la NBA.
Oui, la preuve, hein, c'est qu'il y avait 250 journalistes de 15 pays accrédités pour cette rencontre hier. Ça ressemblait plus à des finales NBA qu'à un match de saison régulière. Et d'ailleurs, l'interview d'après-match a eu lieu dans les couloirs du Staples Center et pas dans les vestiaires, comme c'est normalement le cas, parce qu'il n'y avait pas assez de place, tout simplement. Il n'empêche hein, que malgré ses 24 points, 5 rebonds et 5 passes, LeBron James s'est fait voler la vedette hier soir.
On parle en effet plus aujourd'hui de la bagarre qui a éclaté sur le parquet entre Rajon Rondo et Chris Paul que des statistiques de LeBron James.
Oui, parce que ça s'est passé en fin de quatrième quart-temps et une bagarre, c'est très rare sur les parquets de NBA et encore plus entre deux stars comme Rondo et Paul. Mais Rondo, le nouveau meneur des Lakers, arrivé cet été, c'est l'un des joueurs les plus détestés de NBA. Eh bien, il a mis un coup de poing en pleine tête à Chris Paul qui venait lui de lui mettre un doigt dans l'œil apparemment parce que Rondo lui avait craché dessus. Alors, il faut s'attendre à des suspensions de plusieurs matchs pour les deux hommes, mais aussi peut-être pour Brandon Ingram, un joueur très prometteur des Lakers qui lui aussi s'est mêlé à la bagarre, et ça veut dire que LeBron James risque de devoir porter l'équipe encore plus qu'il ne le fait déjà.
Merci beaucoup Loïc Piala. À suivre donc les aventures de LeBron James avec les Lakers. Une histoire maintenant bien loin de celle de King James, celle du migrant congolais Christ Wamba. Il y a bientôt 3 ans, il a fui le Congo-Brazzaville, son ballon de basket sous le bras, et aujourd'hui il s'entraîne avec les professionnels, Eric, du prestigieux club grec de Laris Salonique.
Ouais, une histoire qui a des airs de conte de fées, comme il en arrive parfois dans la vie de ceux qui laissent tout derrière eux. Mais entre ces deux épisodes, Christ Wamba a dû abandonner en mer son ballon qu'il avait dégonflé pour effectuer la traversée depuis les côtes turques, recueilli par les gardes-côtes grecs. Il se retrouve ensuite dans le terrible camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos. Tout a changé aujourd'hui. Retour sur le parcours d'un jeune homme déterminé à réussir. Le reportage en Grèce de Charlotte Stievenard.
L'entraînement bat son plein sur le parquet de Laris Thessalonique. Depuis quelques mois, un joueur aux mèches blondes attire l'attention des médias. Christ Wamba, bientôt 18 ans, est originaire du village de Betou, au nord-est du Congo-Brazzaville. Il fait une pause, le temps de nous donner ses impressions.
C'est vraiment dur, c'est première division, c'est pas facile, mais c'est ça le basket pour le sommet. On t'exige, on te pousse, tu dois faire ça. Même si t'es fatigué, tu dois continuer jusqu'à...
Ce joueur de 2 mètres 1 a une histoire peu commune. Après une enfance difficile à Brazzaville, il est venu demander l'asile en Grèce. Il y a 2 ans et quelques, il débarquait sur l'île de Lesbos. Il passera plusieurs mois dans le centre d'enregistrement pour migrants surpeuplés de Moria.
La vie, c'était survival. Et c'était comme les animaux dans la forêt. Chaque jour, tu dois bagarrer pour prendre à manger. Tu peux faire 2 heures, 3 heures distance de là, sous le soleil. Attendre à manger, parfois tu arrives comme ça, il n'y a pas la nourriture est finie parce qu'il y a des gens qui viennent des fois prendre et puis repartir.
Le camp de Moria étant ouvert, il n'hésite pas à faire 40 km à pied pour aller s'entraîner à Mytilène, le chef-lieu de l'île. Il est ensuite autorisé à la quitter pour poursuivre sa demande d'asile dans un autre camp, à Thessalonique, au nord-est du pays. Là aussi, il ne lâche pas le basket et cherche à rejoindre l'Asteras Sindos, un petit club local. Yorgos Baloyanis, le coach, lui sera d'un grand secours. Il l'aide dans ses démarches administratives. Chris Mamba lui en est reconnaissant.
Il m'a dit, lorsque je vais marquer mon premier panier, je dois dédier à lui. Et je lui ai dit, je vais le faire. Il a vraiment plein d'assurance qu'il veut jouer au basket.
Quelques mois plus tard, il se crée un profil sur le site Aslenda, une plateforme en ligne dédiée aux athlètes. C'est un ancien joueur international, Lazaros Papadopoulos, qui le repère et le propose au Aris de Thessalonique. Le coach, Vagelis Agelou, met en avant son caractère décidé.
Ses points positifs sont son humeur, sa volonté et son sens du travail. C'est ça qui nous a poussé à le prendre dans notre équipe. Du point de vue technique, il est encore en retard pour pouvoir passer la prochaine étape au niveau professionnel.
Pour l'instant, Chris Vamba ne participe pas encore au match. Ses coéquipiers, comme Yorgos Agelou, le soutiennent. L'histoire de Chris Vamba lui rappelle celle d'un autre joueur au parcours difficile qui a débuté en Grèce, lui aussi.
J'ai étudié aux États-Unis pendant 4 ans. Je connais quelqu'un d'autre qui a une histoire qui ressemble à celle de Chris. J'étais ami avec Giannis Antetokounmpo, qui joue avec les Bucks, donc j'ai déjà vu ce genre de choses arriver. Je pense qu'il peut y arriver.
Un joueur né en Grèce de parents nigérians et qui fait aujourd'hui les beaux jours des Bucks de Milwaukee en NBA. Chris Vamba est loin d'en être là. Il attend la réponse à sa demande d'asile rejetée en première instance. Pour faciliter les choses, l'ancien joueur international Lazaros Papadopoulos a même proposé de l'adopter. Charlotte Sievenard, Thessalonique, RFI.
Et c'est sur ces cris de joie que nous ouvrons notre page tennis. Deux Français étaient en finale de tournoi ce dimanche à l'arrivée, deux échecs. Gaël Monfils s'est incliné à Anvers face à Kyle Edmund, le Britannique, 3-6-7-6-7-6. Adrian Manarino a été surclassé par le Russe Karen Khachanov, 6-2-6-2. Ils peuvent néanmoins prétendre disputer la finale de la Coupe Davis, prévue à Lille fin novembre contre la Croatie. La dernière finale de Coupe Davis, comme on la connaît aujourd'hui, puisque l'an prochain, vous le savez, l'épreuve vieille de 118 ans change de format. Fini les 4 week-ends répartis dans l'année et les matchs à domicile. Désormais, les 18 meilleures nations mondiales se retrouveront mi-novembre sur une seule semaine pour une phase finale. La compétition se déroulera à Madrid avec des matchs raccourcis au meilleur des 3 sets au lieu de 5 manches en vigueur actuellement. Cette réforme de la Coupe Davis a été votée et approuvée cet été par les cadres de la Fédération internationale, l'ITF. Mais derrière ce projet, il y a un homme, un footballeur, Gérard Piqué, qui avec le soutien de sa société Cosmos, a proposé cette idée, un paquet de dollars à la clé, 3 milliards de dollars étalés sur 25 ans ont ainsi été mis sur la table. Reste que la mise en place de cette nouvelle formule se heurte à plusieurs obstacles. Nous allons voir pourquoi en compagnie de l'ancien joueur français et ex-entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, Lionel Roux, que l'on accueille. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Gérard Piqué a donné mercredi à Madrid une conférence de presse pour présenter cette Coupe Davis nouvelle formule. Et le défenseur du FC Barcelone a révélé notamment les dates de la phase finale, des dates qui étaient très attendues. Ce sera du 18 au 24 novembre à la toute fin de la saison. Donc c'est pas vraiment l'idéal ça, Lionel Roux.
Ben écoutez, c'est sûr que arriver comme ça en fin de saison, on voit déjà beaucoup de joueurs un petit peu fatigués et moussés déjà dans la tournée asiatique qui est fin septembre et durant tout le mois d'octobre. Donc déjà il y a des joueurs qui tirent la langue à ce moment-là, d'autres qui font le choix de ne faire qu'un tournoi ou deux en indoor après en Europe parce que la saison a été longue, parce que le niveau est de plus en plus dur, de plus en plus dense, donc les matchs il n'y en a plus beaucoup des faciles, si on peut le dire comme ça. Et du coup d'arriver de nouveau comme ça au bout du mois de novembre et de se retrouver à représenter son pays, c'est compliqué. Surtout qu'après cette fin du mois de novembre, il y a un petit mois de décembre où il faut se refaire une caisse pour déjà repartir au mois de janvier. Donc ça fait des saisons presque pleines pour un joueur qui décide de tout jouer ou de représenter son pays jusqu'au bout de l'année.
Une courte intersaison, donc, et ce qui corse un petit peu plus l'affaire, c'est que l'ATP, de son côté, l'Association des tennismen professionnels, qui est une entité différente que la Fédération internationale, les deux se font depuis toujours un petit peu la guerre, l'ATP, de son côté, qui gère donc les tournois traditionnels, veut créer sa Coupe du Monde de tennis. La World Team Cup, elle aura lieu début janvier, donc au tout début de la saison. Donc on aura deux compétitions similaires à quelques semaines d'intervalle, c'est un peu ubuesque.
Oui, surtout c'est un petit peu dommage pour les joueurs, pour les spectateurs, téléspectateurs, c'est incompréhensible. Ce qui est dommage, c'est qu'elles vont se jouer vraiment à un mois et demi d'écart. Et je crois que ce qui se dit aussi un petit peu, c'est que Gérard Piqué était venu d'abord en parler à l'ATP, puis après ça s'est pas très bien passé, donc après il est allé vers l'ITF. Donc voilà, c'est un petit peu dommage que ça se passe comme ça. Et du coup, chacun tire un petit peu la couverture à lui pour récupérer cette Coupe du Monde de tennis. Mais ça va être le bazar, ça va être le bazar parce que je vois par exemple une équipe de qui va être représenté par Djokovic sur la World Team Cup et puis qui ne le sera pas représenté, ça ne sera pas du tout la même équipe un mois avant. Ça paraît inconcevable de voir ça. Il faut vraiment qu'ils se remettent un petit peu à table. Et Gérard Piqué avec l'ITF, mais aussi avec l'ATP, je pense.
Alors justement, à propos des joueurs, l'idée au départ pour faire passer cette réforme de la Coupe Davis, c'était de dire que bien les meilleurs joueurs ne disputant plus l'épreuve sous sa forme actuelle, eh bien il fallait changer les choses. Donc voilà qui est fait, mais voilà que Gérard Piqué n'est plus du tout sûr d'avoir les meilleurs pour sa compétition au mois de novembre à Madrid, parce que les meilleurs viennent de s'exprimer là.
Ouais, et du coup, il se retrouve déjà avec trois joueurs du top 10 qui se sont exprimés en disant qu'ils n'allaient pas la jouer. Alors après, peut-être qu'il peut y avoir des changements, hein, on le verra.
On va détailler les joueurs. Djokovic a dit a priori non. Ouais, Roger Federer, il dit a priori non. Bon, moi, je suis au-dessus de tout ça maintenant.
Bien sûr.
Voilà, il est sur la fin. Nadal, bah, évidemment, Nadal, c'est Madrid. Piqué, c'est son copain, donc il dit plutôt oui.
Mais on est d'accord.
Même si Piqué dit s'il n'est pas blessé, parce qu'on sait qu'à la fin de l'année, Nadal, il est souvent blessé.
Souvent, c'est compliqué.
Et puis le petit nouveau, parce que la relève dans tout ça, ça les concerne en premier lieu. Alexander Zverev, cinquième mondial, que l'on présente comme peut-être le futur numéro un, lui, il a dit « Oh non, pas question, cette compétition ne m'intéresse pas ».
C'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il réforme complètement une compétition pour dire que ça va intéresser les meilleurs, mais finalement, les meilleurs répondent qu'ils ne sont pas sûrs de la jouer. Donc, ça risque d'être compliqué. Après, j'espère qu'ils auront l'intelligence de se rendre compte peut-être que ça ne marche pas, de pas dire que c'est tout beau la première année, que c'est fabuleux, mais vraiment de revenir en arrière. Voilà, maintenant, ils sont partis. Ils vont la faire comme ça, dans cette formule. Une formule, si on rentre dans les détails, qui en plus, ça n'engage que moi, mais me séduit pas beaucoup, avec ces deux joueurs, un seul double, des matchs en 3-7... de sept gagnants, ça enlève vraiment tout ce côté dramaturgique qu'il pouvait y avoir, héroïque qu'il pouvait y avoir dans certains matchs avec certains joueurs qu'on pouvait voir se sublimer ou d'autres pas. Donc ça gâche un petit peu tout et de voir un quart de finale France-Canada à Madrid, ça n'a pas la même saveur que de le voir à Vancouver ou à Albertville même. Donc ça va être très très compliqué.
On n'est pas loin du grand gâchis, en effet. Merci en tout cas Lionel Roux pour toutes ces précisions qui nous donnent encore plus envie de savourer la dernière finale de Coupe Davis dans sa forme actuelle, France-Croatie. Ce sera fin novembre à Lille et bien sûr sur RFI. Le Tour cycliste du Burkina Faso est de retour. Éric Chorin, le départ de la 31e édition sera donné de Ouagadougou vendredi prochain.
Ouais, 10 étapes au menu du peloton cette année, dont un contre-la-montre par équipe. Ivoiriens, Camerounais, Togolais, Béninois, Allemands, Belges ou Hollandais seront au départ pour défier les Burkinabés sur leur terre. Pas d'Érythréens en revanche, ni de Rwandais au pays des hommes intègres, presque aussi plat que la main. Un tour sur lequel la menace terroriste pèse. Au début du mois encore, des gendarmes et des militaires ont trouvé la mort lors de l'explosion de mines d'engins explosifs artisanaux sur les routes du pays, d'où une sécurité renforcée et un tour qui évite les zones à risque. Pour que ce Tour du Faso reste une fête, le reportage de Gabriel Barrois.
Retiré depuis la semaine dernière à Bobo-Dioulasso, les étalons cyclistes se préparent activement à aborder le 31e Tour du Faso. Ils sont quotidiennement sollicités entre courses en ligne et courses contre la montre par équipe. Au cours d'un exercice entre Bobo-Dioulasso et Banfora, ils ont roulé par temps de chaleur à la vitesse moyenne de 39 km par heure et confirmé leur bonne adaptabilité avec le milieu physique. Le capitaine Abdulaziz Nikiema.
Ce matin, on vient de rentrer de Banfora à une distance de 85 à aller 170, donc on vient d'arriver comme ça. Vu la blessure que j'avais, On m'avait donné 2 semaines de repos. J'ai suivi que 3 jours d'entraînement. Je pense que ça se déroule bien. L'équipe est vraiment costaud. Il y a l'ambiance. Aujourd'hui, il y a une longue distance. On a tous suivi venir. Donc, je pense que ça commence à venir petit à petit.
Aziz Nikema et 4 autres de ses camarades qui avaient été victimes d'un accident de la route lors de la tropicale Amissa Bongo au Cameroun ont été efficacement pris en charge et ne présentent plus aucun souci de santé, nous confirme le directeur technique national Martin Savadougou.
Aziz Nikema, capitaine et le leader de l'équipe, connaît un soulèvement et c'était les 2 qui étaient gravement blessés. Et quant à Mathias Sorgo, qui était 3e au classement général l'édition passée, lui il a eu une petite fissure mais très minime et qui a vite repris avec le groupe interne à Bobo Dioulasso. Et je crois que les autres, il n'y a pas de problème, l'état d'esprit ça va. C'est vrai qu'il y a eu un problème, un choc, parce qu'ils ont quand même pris le village à près de 140 km/h, mais à l'heure actuelle, je crois que tout est rentré à l'ordre. L'ambiance est revenue au sein, en tout cas, des étalons cyclistes.
Pour sécuriser le tour dans un environnement dont l'équilibre est rompu par des attaques terroristes à répétition, les organisateurs ont exclu toute étape en direction du Grand Nord et de l'Est. Ce que nous dit le capitaine Yasmine Manigré Sawadogo, président de la Fédération Burkinabé de cyclisme.
Le Tour du Faso cette année ne se rend pas à l'Est. Et puis le Tour du Faso se limite pour la partie nord à Wayuga. Et au niveau donc de l'Ouest, la limite sera donc Orodara. Et pour les étapes de Wayuga et de Orodara, en tout cas, les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait aucun problème sécuritaire.
Pour les autorités nationales, toutes les solutions de sécurité doivent être envisagées pour protéger le Tour du Faso et les participants, renchérit le ministre des Sports et Loisirs, Daouda Azoupiou.
Cette année, nous avons voulu associer nos plus hautes autorités du point de vue, j'allais dire, de l'armée pour souhaiter qu'une couverture aérienne, en tout cas, soit mise à profit pour permettre donc à la caravane de pouvoir bouger d'un point à un autre dans l'assurance totale pour que le tour puisse se passer dans les conditions les meilleures.
Et pour éviter qu'une si belle épreuve ne soit la cible des extrémistes, les États-Unis ont décidé cette année de participer à la sécurisation du Tour du Faso, nous confie Daniel Marc, l'attaché culturel de l'ambassade des États-Unis au Burkina.
Cette année, les États-Unis est très intéressant de soutenir le Tour du Faso parce qu'on croit que le sport est la plus grande manière de rassembler tous les gens. Surtout en face des défis régionaux et des défis ici au Burkina. Donc à travers des événements comme le Tour de Faso, on peut montrer que le peuple burkinabé sont ensemble contre le terrorisme et l'extrémisme.
Le Tour du Faso ainsi sécurisé peut se disputer du 26 octobre au 4 novembre entre une 15aine d'équipes européennes et africaines sur un circuit total de 1 289 300 km répartis en 10 étapes entre des courses en ligne et une course contre la montre par équipe avec une incursion en territoire ghanéen dès la 2e étape Manga Bolgatanga. Malgré l'absence de l'Érythrée et du Maroc, que l'on attendait pour relever davantage le niveau du plateau sportif, le Tour du Faso, qui aspire dès l'année prochaine à la classe 2.1 de l'Union Cycliste Internationale, est prêt à vivre son aventure. Gabriel Barrois, Ouagadougou, RFI.
Précisons juste, Eric, que la catégorie 2.1, c'est la première division de l'UCI Africa Tour. Jusqu'ici, la Tropicale Amissa Bongo au Gabon était seule à en faire partie, rejointe par le Tour du Rwanda cette année et donc le Faso l'an prochain.
Tour du Faso que vous nous ferez vivre, Eric oui. Chorin, à partir de vendredi prochain, mais avant de prendre votre vélo, si vous nous donniez le tirage au sort de la CAN de football féminine qui aura lieu au Ghana, tirage au sort qui s'est déroulé ce soir.
Et dans le groupe du Ghana, le A, il y aura donc le Cameroun, le Mali et l'Algérie. Enfin, dans le groupe B, celui du tenant de titre, le Nigeria, évolueront l'Afrique du Sud, la Zambie et le Kenya.
Compétition le mois prochain.
17 novembre, 1er décembre.
Merci, et ben on se quitte là-dessus. Merci à tous, merci Hélène Avril qui était à la réalisation. Demain, Radio Foot International, Annie Gasny. Bonne soirée, bonne semaine à tous.